Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite le bonjour. Souhaiter le bonjour, dans le langage de la liturgie, ça se dit « Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Pour nous accompagner dans la liturgie de ce culte, j'ai choisi un ensemble de textes tirés de divers livres, mais tous écrits par la même personne, une théologienne et poétesse suisse, Francine Carillo. Et nous commençons par une prière pour nous mettre dans l'état d'esprit du culte. Père, donne-nous la prière que tu désires pour nous ce matin, une prière simple, juste et claire, une prière du dedans, posée dans la bonté de ta présence. Une prière qui écoute au lieu de bavarder. Une prière qui fait mémoire au lieu de ressasser. Une prière accordée à ta volonté plutôt qu'à la nôtre. Une prière libre, debout à l'aplomb de ton pardon. Une prière haute comme une cathédrale de compassion. Une prière basse comme une crypte d'humilité. Une prière légère, abritée au porche de ta grâce. Une prière d'amour, offerte à nos blessures d'humanité. Une prière toute donnée à toi qui donne tout. Père, donne-nous cette prière-là, afin que notre vie entière soit prière. Nous louons à présent Dieu, à travers cet autre poème de Francine Carillo. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom chaque jour nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Et si nous sommes habités par cette fin de l'absolu, nous savons aussi que nos vies sont souvent bien lourdes, et c'est ces lourdeurs que nous confessons à présent. La vie n'attend pas, Seigneur, elle nous fait signe à chaque instant, à chaque tournant, et nous marchons souvent, tête baissée, sur nos soucis, sur nos replis. La vie n'attend pas, les autres sont là, à chaque instant, à chaque tournant, et nous sommes souvent malentendants, paresseux dans nos empressements. La vie n'attend pas, Seigneur, c'est toi qui nous attends, toi qui nous cherches inlassablement, qui nous veut vivants à chaque instant, à chaque tournant. Et nous recevons à présent une parole de pardon et d'encouragement. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agité, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas triste et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Et encouragé par ces paroles de pardon, nous voulons maintenant écouter la volonté de Dieu pour nous. Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme une réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme un pain et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un avant de tendresse se prépare où je vous attends comme la nuit attend le jour. Nous venons d'entendre une musique de Bach. Comme nous en entendrons d'autres extraits au cours de ce culte, il s'agit d'une orchestration faite par William Walton pour un ballet créé en 1940 sur le thème des vierges sages et des vierges folles. C'est en effet ce de parabole bien connue que je vous propose de méditer pour ce dimanche. Et avant d'en lire le texte, je vous invite à la prière d'illumination, toujours avec une poésie de Francine Carillo. Christ, lumière du monde, parole profonde, tu es la joie qui relève, la vie qui passe l'ombre, la force du pas suivant. Tu es la racine et la pelle, l'ancre et le large, la terre promise et le voyage. Viens guérir nos somnolences et nous réveiller de nos absences. La parabole des vierges dites, des vierges sages et des vierges folles, ne se trouve que dans un seul évangile, celui de Matthieu. C'est au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est, je crois, une des paraboles les plus tristes de l'Évangile. Elle ne pensait qu'à ça depuis des jours, à cette fête qui vient rompre la monotonie des jours. Ces noces où on s'amuse, où on danse, où on rencontre des garçons. Et voilà que la fête a lieu sans elle. Quelle déception! On aurait pu imaginer bien d'autres versions de cette parabole que celle qui nous est proposée. Des versions plus joyeuses, des versions, j'allais dire, plus évangéliques. Par exemple, l'époux aurait pu dire au retardataire « C'est aujourd'hui la fête ! Je veux que personne ne soit triste le jour de mon mariage. Venez, entrez dans la joie de la noce. » Et les vierges de la 11e heure auraient été accueillies comme celles de la première heure. Cela aurait été vraiment une parabole évangélique, une parabole de la grâce. Ou bien encore, les jeunes filles prévoyantes auraient pu dire à leurs camarades étourdis, « Il faut que vous veniez. Sans vous, la fête ne serait pas complète. Ne vous en faites pas. Nous allons partager l'huile. » Et s'il n'y avait pas eu assez d'huile pour elles toutes, alors elles se seraient donné la main. Celle qui avait une lampe allumée aurait guidé celle qui était dans l'obscurité. Cela aurait été vraiment une parabole évangélique, une parabole de l'amour et du partage. Ou bien encore, on aurait pu louer la folie des vierges folles, elles qui ne pensent qu'à la joie de la noce et en oublient tout le reste, elles qui, ayant trouvé une perle de grand prix, lâchent tout pour se la procurer, elles qui ne s'encombrent pas de bagages pour aller à la rencontre de celui qui n'a pas de lieu où reposer sa tête. Est-ce qu'elles n'incarnent pas l'esprit de l'Évangile, ces vierges folles, bien plus que ces filles prudentes et pragmatiques, qui pensent à toutes les questions pratiques, comme Marthe qui s'affaire en cuisine alors que le maître enseigne? Et comme le ciel habille le lys et nourrit les oiseaux des champs, il aurait pu aussi éclairer le chemin des jeunes filles par un beau clair de lune. Cela aurait été vraiment une parabole évangélique, une parabole de la confiance. Et pourtant, nous n'avons entendu aucune de ces versions, mais cette version terrible, où la belle insouciance de la jeunesse est impitoyablement sanctionnée, où l'égoïsme règne dans le cercle des amis, où l'époux est un homme dur et sans générosité. Si cette parabole est une parabole dure, c'est, je crois, parce que c'est une parabole de l'irréversible. Il y a un temps pour faire les choses, et ensuite il est trop tard. Il y a un temps pour aller au magasin et acheter de l'huile, un temps pour la brûler dans la lampe. Il y a un temps pour se présenter au festin des noces, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. La solidarité et la générosité des autres n'y peuvent rien. Le temps perdu ne se rattrape pas. L'occasion manquée ne revient pas. Parabole de l'irréversible. Ce sentiment de l'irréversible, nous le connaissons bien dans nos vies. Au moins quand on arrive à un certain âge. Jeunes, nous avons peut-être l'impression d'avoir tout le temps devant nous. Plusieurs vies nous sont offertes. On fait tel métier, puis tel autre. On est ici, puis ailleurs. On aime et on aimera à nouveau. Mais en prenant de l'âge, nous commençons à penser à ce que nous n'avons pas fait et que nous ne ferons plus. Parce que le corps ne suit plus. Parfois l'esprit aussi. Parce que les années sont comptées, parce qu'il y a des choses qui se font à 20 ou à 40 ans, mais qui ne se font plus à 60 ou à 80. Parce que peut-être nous nous disons « à quoi bon ?» Alors je pense à ceux qui, en ce moment, peut-être connaissent la tristesse des vierges folles, la tristesse des occasions manquées, qui ont le sentiment que la fête, la grande fête de la vie, a lieu sans eux. Cette irréversibilité du temps, nous la vivons aussi avec une étreinte particulière à l'échelle collective dans la crise écologique. Nous savons qu'il y a des points de non-retour, des seuils au-delà desquels les désordres climatiques deviennent catastrophiques, des destructions irréparables de l'environnement. Il y aura, si nous continuons sur la mauvaise pente où nous sommes engagés, un jour la dernière grenouille, comme il y a eu le dernier dinosaure, la dernière goutte de pétrole, et il ne sera plus possible, sinon, de remplir le réservoir de nos lampes, du moins celui de nos voitures. Mais malheureusement, nous manquons les rendez-vous les uns après les autres, et comme nous ressemblons à ces folles qui, par leur négligence, compromettent leur avenir. Alors cette réalité de l'irréversible dans nos vies individuelles et collectives nous place dans une position morale et spirituelle difficile, comme si nous avions finalement le choix entre l'insouciance, voire le déni, et une angoisse dévorante. Il y a ceux qui nient les problèmes, qui préfèrent ne pas voir. Les jouisseurs de l'instant présent. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. les climato-sceptiques. Le changement climatique, ça n'existe pas ou ça a toujours existé. Les idolâtres du progrès technique, il n'y a pas à s'en faire, on inventera bien une solution. Il y a à l'inverse ceux qui sont hantés par l'imminence de la catastrophe, les prophètes du grand effondrement, les survivalistes enfermés dans leur bunker, les âmes sensibles accablées par notre cécité et notre inaction, comme ces enfants qui se réfugient dans la forêt dans ce film que vous avez peut-être vu à l'occasion de la contemporaine de Nîmes, le film Millennials de June Balthazar qui est projeté et qui va être encore projeté jusqu'au 22 septembre à la chapelle des Jésuites. Le déni ou l'angoisse, est-ce là notre seul horizon face à cet irréversible du temps? Eh bien, je crois que le texte de l'Évangile nous ouvre une autre perspective. Nous croyons que cette parabole est un éloge de la sagesse et de la prudence. Mais n'est-ce pas plutôt en vérité un éloge de la folie? Car il faut être folle pour croire que dans cette nuit noire, la lumière de la fête va briller. Il faut être folle pour croire que dans cette nuit silencieuse, la musique de la noce va retentir. Il faut être folle pour croire qu'alors que l'heure est passée depuis bien longtemps, que l'époux va encore venir. Qui sont les sages, qui sont les folles? Les plus sages ne sont-elles pas finalement celles qui prennent ce qu'il faut d'huile pour tenir jusqu'à l'heure prévue? Les plus folles ne sont-elles pas celles qui attendent encore quand tout dit qu'il ne viendra plus? Nous croyons que cette parabole est une parabole de l'irréversible, et c'est vrai, mais c'est aussi une parabole du miracle d'un temps toujours disponible. Car il y a retard et retard dans le texte. Il y a le retard des vierges folles qui trouvent la porte close, le retard qui signifie un trop tard. Et il y a aussi le retard du maître qui tarde à venir. Le retard qui signifie un jamais trop tard. Quand l'heure est passée, c'est encore l'heure. Nous croyons que cette parabole est une parabole de l'urgence, et c'est vrai. Mais il y a urgence et urgence. L'urgence panique nourrie par la crainte de la catastrophe. Help ! Nous n'avons plus d'huile, nous sommes dans le noir, aidez-nous ! Et il y a l'urgence fébrile nourrie par l'attente impatiente d'un événement heureux, l'urgence de celles qui ne dorment que d'un œil car elles savent que l'époux va venir. Oui, l'Évangile nous propose bien un autre horizon que le déni ou l'angoisse. L'Évangile substitue à l'urgence angoissée de la crainte l'urgence confiante de l'espérance. Non pas l'attente de la catastrophe, mais l'attente d'une visitation. Il n'est pas trop tard, dans la nuit du monde, dans la nuit de nos vies, une lumière peut luire. Cette espérance n'est pas le déni. La nuit est bien nuit. Et c'est précisément parce qu'elles savent à quel point cette nuit est noire que les vierges sages font des provisions d'huile. Mais elle croit aussi qu'aussi sombre soit cette nuit, la lumière de la fête peut encore y briller. Elles sont portées par l'attente folle d'un avenir possible qui vient d'éclore le présent. Cette espérance n'est pas non plus une attente passive en se croisant les doigts, les mains. C'est une espérance active, mobilisatrice, agissante. C'est là la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Les unes et les autres espèrent, mais les unes attendent, alors que les autres se préparent. Il y a quelque chose de très singulier dans l'espérance biblique. Israël vit dans l'attente de la venue du Messie, et quand une partie des Juifs pense que celle-ci s'est réalisée avec le ministère de Jésus, eh bien, l'espérance messianique, logiquement, aurait dû s'éteindre. Eh bien, pas du tout, voici qu'elle refleurit, comme attente du retour du Christ. Ce retour que les premières communautés chrétiennes attendent de manière imminente. Mais l'époux tarde à venir. Et une parabole comme celle-là, et parabole de la patience dans l'attente, de la vigilance maintenue malgré le retard, est une parabole qui vient encourager justement ces premières communautés. Mais finalement, ce que nous dit cette espérance dont la réalisation est sans cesse différée, c'est peut-être quelque chose d'autre. Ce qui compte, ce n'est pas tant la réalisation future, une fois pour toutes, de l'espérance, que la manière dont celle-ci vient ouvrir le présent, chaque présent, dans la confiance d'une visitation possible à toute heure dodo-nuit. Oui, l'espérance crée un autre rapport au futur que celui du déni ou de l'angoisse, un rapport fait à la fois de lucidité, de prévoyance et aussi de confiance. Amen. Nous confessons à présent notre foi avec cette confession de foi écrite par Francine Carillo qui nous sert de fil conducteur dans ce culte. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père, de lui je reçois mon nom, et l'appel à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois avec mes sœurs et mes frères de baptême l'élan de vivre à la suite du Christ crucifié, ressuscité. Et nous prions maintenant pour ceux qui sont dans la nuit des souffrances et des tristesses individuelles, la nuit des conflits et des catastrophes collectives. Quand ils n'auront plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand leurs yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l'abandon, quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues, et quand ils se laisseront gagner par la froidure du dedans, dis-leur seulement qu'une parole vient qui brise les évidences. Dis-leur que de l'humain, une autre version est possible. Dis-leur que l'hiver des cœurs abrite une promesse. Dis-leur surtout que la lumière attend de naître sous leurs pas, dans le terreau fertile de leur fragilité reconnue. Et nous prions maintenant la prière que le Seigneur nous a enseignée et qui récapitule toutes les prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pour terminer ce moment de culte, nous recevons l'exhortation et la bénédiction du Seigneur avec une dernière fois les mots de Francine Carillo. Laisse couler en toi la source et tu sauras combien tu avais soif. Laisse passer en toi la vie et tu sauras combien tu étais mort. Laisse respirer en toi le désir et tu sauras combien tu étais lié. Laisse vivre en toi l'amour et tu sauras combien tu étais seul. Laisse naître en toi la présence et tu sauras combien tu étais absent. Laisse-toi trouver par celui qui est le visage de ton humanité et tu te sauras à jamais enfant de l'Esprit.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.